Je vous invite à ouvrir vos Bibles électroniques, papier, tout ce que vous avez sous la main, mais qui soit Bible, peu importe la version. Et je voudrais vous parler ce matin d'un sujet important. D'abord, je voudrais remercier les personnes qui ont répondu par rapport à l'annonce qui avait été faite sur l'Église dans les maisons. Donc, j'ai eu déjà deux réponses écrites et je voudrais remercier nos deux sœurs qui ont répondu et qui ont pu donner aussi leurs sentiments et leur vision aussi des choses. Merci beaucoup, ça, c'est quelque chose de précieux et ça nous permettra de réfléchir et d'avancer. En tout cas, quand il y a quelque chose que Dieu montre, il y a aussi un chemin par lequel on doit passer. Et ce que je voudrais dire, c'est quand Dieu a prévu bâtir son temple, son tabernacle, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné l'image, le plan à Moïse, et un modèle. Et il a dit à Moïse, tu feras selon ce modèle. Il a dit, par rapport aux autres qui se sont levés pour faire cela, ils ont fait d'après le modèle de Dieu. Et ce que nous attendons pour notre Église, c'est que Dieu nous trace la voie et qu'il nous donne lui-même le modèle à suivre, afin que nous l'imitions. Et c'est un Dieu de sagesse, c'est un Dieu qui nous fait passer par des étapes. Il ne nous donne pas tout d'un coup, mais il nous donne juste ce qu'il faut pour avancer. Et quand nous avançons et que nous accomplissons selon ce qu'il nous dit, lui, alors la bénédiction de Dieu vient. Je voudrais vraiment vous encourager ce matin au travers de au moins de plusieurs textes déjà, mais je voudrais vous encourager au travers d'un premier texte qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. J'allais dire Actes du Saint-Esprit, mais c'est plutôt Actes du Saint-Esprit. Au chapitre 4 et versets 23 à 31. Donc, acte 4, versets 23 à 31. Je pense que vous avez trouvé. On n'a pas l'écran qui s'allume, mais avec les versets affichés dessus. Mais peu importe, on est bien ici. On veut vraiment bénir le Collège Daniel qui nous reçoit ce matin. Amen. C'est une grâce de se retrouver ensemble. Est-ce que vous sentez que c'est une grâce ce matin ? Qu'il est bon pour des frères, des sœurs. J'ajoute des sœurs, je ne retranche rien, je n'ajoute rien à la parole de Dieu, mais nous, de toute façon, nous sommes tous des hommes devant Dieu, n'est-ce pas ? Soyez des hommes, dira Paul. Eh bien, mais il est bon pour des hommes, des femmes, de se retrouver ensemble dans la communion fraternelle. C'est là que l'Éternel envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Amen. Alors, au chapitre 4, à partir du verset 23, nous lisons quelque chose d'important parce que les disciples avaient été emprisonnés, battus, et après avoir été relâchés, verset 23, ils allèrent vers les leurs et racontèrent ce que les principaux sacrificateurs et les anciens avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et nous disons amen à la parole de Dieu. J'aimerais ce matin vous parler d'un thème, et le titre de ce message, ce sera la hardiesse de la foi. La hardiesse de la foi. Vous savez que la crainte, c'est quelque chose qui détruit la foi. Et une fois que vous êtes sous la crainte, ben nous devenons inutiles pour Dieu. Mais lorsque nous avons la hardiesse de la foi, nous entrons dans la liberté. Nous entrons dans les plans de Dieu, dans les projets de Dieu. Israël, vous rappelez, sortait d'Égypte Et le peuple de Dieu était en route vers le pays de Canaan. Donc c'est un pays qui avait été promis au peuple de Dieu. Et lorsqu'ils arrivèrent à la frontière de ce pays promis, Moïse a fait une chose, il a envoyé 12 hommes qui allaient être des espions, qui allaient pénétrer le pays promis, qui allaient regarder, observer, afin de revenir pour faire un rapport de ce qu'ils avaient vu, entendu, et de ce qu'ils avaient pu même appréhender avec leurs mains. Et donc, il choisit 12 hommes, un homme par tribu, et il les envoya pour reconnaître ce pays. Et pendant 40 jours et 40 nuits, ils ont arpenté dans ce pays, ils ont arpenté ce pays, et ils ont pu observer ce qui s'y passait. Et lorsqu'ils revinrent, le peuple entier était prêt à recevoir des informations recueillies par ces hommes, et la Bible nous dit qu'ils firent un rapport. 10 d'entre eux se sont donc levés et ont dit à Moïse, au verset 27b, deuxième partie du chapitre 13 du livre de l'Exode, Exode 13, 27, ils diront « À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. » Donc Dieu n'avait pas menti. Dieu leur avait dit « Je vous donnerai, vous entrerez dans un pays que je vous donne, bien sûr, où coule le lait et le miel. » Verset 27, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais verset 28, mais, il y a toujours un mais qui s'interpose entre ce que Dieu veut et ce que nous voudrions voir. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, nous avons vu des géants d'Anak. Et au verset 31, deuxième partie, ce peuple est plus fort que nous. Verset 32, ce pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Verset 33, nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions, écoutez bien, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des criquets, comme des sauterelles. Et ces 10 espions ont parlé, mais en parlant, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont inspiré la crainte dans le cœur de tout le peuple qui entendait le rapport qu'ils faisaient. Donc ils sont revenus avec des informations négatives sur ce pays. Ils ont dit des vérités, et c'est vrai qu'ils ont pu voir des géants, ils ont pu voir des villes fortifiées, ils ont pu voir des murailles, ils ont pu voir des géants, des gens terribles. Ils ont pu aussi voir que le pays était un bon pays. Ils ont même cueilli une grappe de raisin, vous rappelez, dans le pays d'Eshkol. Et ils ont été obligés d'être 2 hommes avec une perche pour porter cette grappe de raisin, tellement elle était grosse. Ils ont pris des figuiers, des figues, des grenades, ils ont pris des fruits du pays et ils ont ramené tout cela. Mais la crainte a saisi le peuple. Et vous savez, la crainte détruit la foi. Alors tous voulaient retourner en Égypte et ils se sont rebellés contre Moïse, ils se sont rebellés contre ces deux, Josué et Caleb, ils se sont rebellés contre Dieu. 2 hommes parmi les espions, parmi les 12, se sont levés et ont donné, eux, un rapport positif. C'était Josué et Caleb. Et ils dirent que le pays était bon, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Chapitre 14, verset 7 et le verset 8, c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc Dieu avait raison. Mais au verset 9, ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Montons, emparons-nous de ce pays, nous y serons vainqueurs. Chapitre 13, verset 30. Josué et Caleb ont essayé de placer la foi dans le cœur du peuple, mais le peuple n'a pas voulu écouter leur message. Ils ont essayé de les tuer, et l'Éternel n'était pas content du tout. Donc l'Éternel les a tous renvoyés dans le désert. Et pendant 40 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tourné en rond jusqu'à ce que la génération qui avait maugréé s'éteigne dans le désert et que les enfants de ces gens-là, eux, soient les futurs possesseurs de la promesse de Dieu, c'est-à-dire qu'ils puissent entrer, eux, dans le pays de Canaan. La crainte, la peur, mes amis, détruisent la foi. Mais pour ce qui est de Josué et de Caleb, ils étaient animés par la foi, et eux sont entrés dans le pays de Canaan. Et lorsque les disciples de Jésus qui vivaient la persécution, on vient de le lire, ils n'ont pas demandé à Dieu de les protéger, ils n'ont pas demandé à Dieu des dons particuliers, ils ont simplement demandé à Dieu de leur donner la hardiesse de la foi. Oui, ce dont nous avons besoin, mes amis, c'est la hardiesse de la foi, l'audace. Demandons cela à Dieu ce matin. Seigneur, j'ai besoin que tu me secoues. J'ai besoin que tu me travailles, que tu travailles mon cœur. Parce que, Seigneur, souvent la crainte m'habite. Souvent, je suis mu par des terreurs, des craintes. J'ai des angoisses. Alors que toi, tu es le Dieu du ciel. Lorsque tu as créé le ciel, la terre, les poissons, les animaux, tout ce qu'il renferme, l'homme et la femme, tu es le Dieu créateur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es mon Dieu, mais je t'appartiens. Ma vie est entre tes mains. Or, Seigneur, si je suis mu par la terreur, par la peur, ce n'est pas normal. Parce que tu veux réellement que je puisse confesser de ma bouche et vivre ce que tu m'enseignes dans ta parole, cette parole que tu m'as donnée. Que Dieu enlève toute crainte de nos cœurs ce matin, afin que nous puissions toujours croire la parole de Dieu étant animée d'une grande hardiesse. Lorsque nous allons commencer à pratiquer cette hardiesse et cette foi dans la parole de Dieu, nous allons commencer à expérimenter autour de nous et dans nos vies, dans nos maisons, nous allons commencer à expérimenter des miracles. Je crois dans le Dieu des miracles, et vous? Je crois que Jésus n'a pas changé. Je crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je crois que ce que Jésus a fait dans le passé, il veut le faire aujourd'hui parce que Jésus n'est pas mort, il est ressuscité des morts, il vit à la droite de Dieu et il intercède pour nous et il veut que nous soyons un peuple qui marche dans la victoire. Au nom de Jésus, entendez cela ce matin. Nous avons été secoués par cette pandémie. Nous avons été secoués par les actualités. Et nous avons été arrosés par des choses négatives, vague après vague. Et peut-être que nous avons baissé la tête, courbé l'échine. Mais Dieu nous dit ce matin, peuple de Dieu, relève la tête. Je suis ton Dieu. Je marche devant toi. Je te conduis dans des sentiers que moi je connais. Et je ne t'entraîne pas vers des déserts arides et brûlants, mais je t'entraîne vers un pays où coule le lait et le miel, un pays de bénédiction, un pays de sources d'eau et de lacs, un pays où il n'y a pas de sécheresse, un pays où la pluie de Dieu descend, où il y a la première et l'arrière-saison arrosée, un pays où les graines germent, viennent à maturité, donnent à manger, un pays où tu pourras manger à satiété, parce que je suis ton Dieu et je prends soin de toi jour après jour. Ta prière a été entendue, j'ai entendu les cris de ton cœur, mais je descends ce matin pendant ce culte pour te délivrer de tout esprit de crainte et de terreur. Comment pouvons-nous donc développer cette audace dans notre cœur, mes amis? Sans cette audace, nous ne pouvons toucher le trône de Dieu. Et le diable, vous savez, lui, il vient pour détruire, pour nous déranger, pour dévorer, pour nous ruiner, et même ruiner nos finances. Il est celui qui dévore. Mais il veut placer la crainte dans nos cœurs afin de nous geler, afin de nous paralyser. Nous n'osons pas nous lancer dans la foi, mais Dieu est grand. Et ce matin, je voudrais vraiment le dire avec tout mon cœur, avec toute ma force. Dieu est grand, Dieu est merveilleux et il est prêt à ouvrir pour nous les écluses des cieux. Mais mes amis, je m'attends et nous nous attendons nous-mêmes à ce qu'au milieu de nous, il y ait des miracles. À ce qu'autour de nous, en dehors des murs de notre église, si je puis m'exprimer ainsi, en dehors de notre communauté, les gens soient touchés parce que nous allons rayonner de sa gloire et de sa magnificence, parce que nous allons prononcer des paroles de vie, parce que ces paroles vont toucher des âmes desséchées, assoiffées, des gens qui ont besoin de quelque chose, qui recherchent dans l'occultisme, qui recherchent dans les ténèbres, mais qui n'ont pas connu la lumière. Mais mes amis, nous sommes des enfants de lumière. Et la parole de Dieu que nous avons entre nos mains, c'est la vérité. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole, dit Dieu, ne passera pas. Alors, pour avoir cette foi audacieuse, premièrement, faisons de Dieu la seule ressource de notre vie. Beaucoup de gens ne prennent pas Dieu pour leur ressource. Ils mettent leur foi dans autre chose. Ils mettent leur foi dans l'argent, par exemple. Ils mettent leur foi dans la puissance politique et dans les programmes que nos politiciens déversent, et on va en entendre pendant des mois jusqu'aux élections bientôt. Ils veulent mettre leur confiance dans leur jeunesse. Ils veulent mettre leur confiance dans votre santé. On pourrait rajouter à la liste. Mais ces ressources-là, ce sont des ressources qui ne sont pas fiables, mes amis. Dieu est notre source. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est notre créateur, mais il peut combler chacun de nos besoins. Et je ne suis pas en train de vous prêcher un évangile à l'eau de rose en disant « Venez à Jésus, vous aurez tout en abondance ». Je ne suis pas en train de dire cela. Mais je suis en train de dire que si Dieu prend soin des oiseaux, si Dieu prend soin de la nature, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de nous ? Et à chaque jour suffit sa peine. Mais si nous, il nous voit, il connaît nos besoins, il connaît nos cris. Et j'aime dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse a été appelé à venir auprès du buisson ardent, il a entendu Dieu lui dire « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu le cri que lui fait pousser son oppresseur et je suis descendu pour le délivrer. » Amen. Dieu veut descendre ce matin pour nous délivrer et nous donner une espérance. Et cette espérance, elle est vivante dans mon cœur. Mais je crois qu'elle est vivante dans votre cœur. Et mes amis, je m'attends à recevoir de Dieu quelque chose qui va faire que je vais pouvoir témoigner que Jésus-Christ guérit les malades, que Jésus soulage les opprimés. Alors abandonnons notre vie entre ses mains, dépendons de lui complètement et faisons de lui notre seule ressource. Je veux dire ce matin, il est notre source. Mais je voudrais ajouter, vous connaissez ce psaume qui dit « Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. » Amen. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Il ne s'agit pas de dessert, il ne s'agit pas de serpent, il ne s'agit pas de rochers nus. Il y a des ruisseaux pleins d'eau et le peuple de Dieu va pouvoir aller boire à satiété dans les ruisseaux que le Seigneur fait couler devant son peuple. Alors pour avoir cette foi audacieuse, la deuxième chose, c'est qu'il nous faut connaître les promesses de Dieu. Et mes amis, c'est peut-être une répétition par rapport au message sur la foi que j'ai pu donner dernièrement, mais je voudrais encore dire ceci, c'est que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Si nous nous appuyons sur la parole de Dieu et que nous restons debout sur ce que cette parole enseigne, la hardiesse de la foi va grandir dans nos cœurs. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Sans que tu le saches, si tu lis des livres sur la violence, tu vas voir la violence commencer à grandir dans ton cœur. Si tu lis des livres basés sur l'impureté, tu vas commencer à avoir de mauvaises pensées qui vont germer dans ton cœur. Mais quand tu vas lire la parole de Dieu, sanctifie-les par ta parole, dira Jésus dans Jean 17, ta parole est la vérité. Tu lis la parole de Dieu, elle te sanctifie, elle te purifie, mais elle crée en toi une foi qui va grandir, qui va grandir, qui va grandir et qui à un moment donné va saisir. Et tu vas entrer pleinement dans la victoire. Si nous nous appuyons sur la parole de Dieu, alors beaucoup de gens, on l'a dit dernièrement, s'appuient sur leurs sentiments qui sont changeants à tout instant. Mais si vous placez votre foi dans la parole de Dieu, elle est une fondation pour nous. Elle est un rocher sûr. Dieu est le rocher des siècles, inébranlable. La parole de Dieu va augmenter notre foi. Elle va conquérir la crainte qui habite en nous. Et elle va libérer, écoutez-moi bien, la puissance de Dieu pour chacun d'entre nous. Chaque fois que vous allez vous lancer par la foi, des doutes, des craintes vont venir vous assaillir. Mais continuez à lire, continuez à méditer la parole de Dieu, remplissez votre cœur de la parole de Dieu et restez ancré dans cette parole. Ça va amener la foi dans votre cœur et là, à un moment donné, la foi va tellement jaillir que ce sera évident pour vous que Dieu réponde. Dieu ne pourra pas faire autrement que de répondre en retour de ce que vous avez lu comme promesse dans sa parole. Alors pour avoir cette foi audacieuse, j'aimerais dire en troisième position, c'est que soyons remplis du Saint-Esprit. Avant que les disciples de Jésus ne soient remplis du Saint-Esprit, ils étaient faibles, ils étaient lâches. Et je me souviens d'un homme qui a vraiment marqué ma vie. Et j'ai lu tellement de fois son histoire. C'est Pierre. Vous vous rappelez ce Pierre qui a suivi Jésus, qui était impulsif, il avait son petit caractère, comme on dirait. Hein. Mais lorsque Jésus annonce sa mort, il a dit « Qu'à cela ne tienne, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. » Et Jésus, de le reprendre, à un moment donné, lui dit même à rire de moi, Satan. Ce n'était pas lui qui était Satan, mais les pensées qu'il véhiculait ne venaient pas de Dieu, mais venaient de l'enfer. Et Pierre dira « Même s'il me fallait mourir avec toi, je te suivrai partout, je ne t'abandonnerai point. » Et Jésus de lui dire « Avant que le coq ne chante, tu me renieras trois fois. » Et la Bible nous dit que c'est ce qui s'est passé. Pierre a commencé à se chauffer avec les ennemis de Jésus dans la cour du prétoire. Et vous savez, quand on se chauffe avec des ennemis de Dieu, petit à petit, notre cœur se refroidit, s'éloigne de Dieu. Et on finit par penser comme les ennemis. On finit par agir comme eux. On finit par vouloir se faire bien voir d'eux et ne pas dire des choses qui vont les contrarier. Et on fait comme eux. Et à un moment donné, on pose la question à Pierre. Pierre, on t'a vu, tu étais avec Jésus. Non, je ne le connais pas. Il ne pouvait plus résister. Il était parmi les ennemis de Jésus. Il se chauffait avec eux. Mais il ne pouvait pas résister. Et il a dit par trois fois, je ne le connais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles à une servante. Ton langage te fait reconnaître, je ne le connais pas. Et aussitôt, le coq se met à chanter. Et Pierre a croisé le regard de Jésus. Et je pense que quand Jésus l'a regardé, ce n'était pas pour l'accuser. Mais c'était simplement un regard de compassion en disant, tu vois, je t'avais dit que tu me renierais. Mais il y avait un plan que le Seigneur avait préparé pour Pierre. Pierre était tellement rempli de crainte que par ces trois fois, il a renié Jésus et les disciples étaient tous des faiblards. La preuve, c'est que quand on a crucifié Jésus, ils se sont tous enfuis, presque. Il y en avait deux qui sont restés. Il y avait Pierre et un autre disciple qui est resté près de la croix, mais les autres se sont envolés. Mais le jour de la Pentecôte, ils étaient tous là en train de prier. Ça faisait 10 jours qu'ils étaient dans la chambre haute. Et tout à coup, le Saint-Esprit est descendu. Il a rempli toute la maison où ils étaient assemblés. Et la Bible nous dit que la foi et l'audace ont commencé à les saisir. Ils n'avaient plus peur et Pierre a commencé à prêcher. Et mes amis, vous savez ce qui s'est passé quand il a commencé à prêcher? Il était tellement hardi, tellement rempli de l'audace de la foi. Il a dit, ce Jésus, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et c'est quand ils ont entendu cela qu'ils ont dit, mais mon frère, que ferons-nous? Vous vous rendez compte? Il méritait la mort en disant cela. Il se faisait l'ennemi de César. Mais la Bible nous dit qu'ils ont été touchés par le Saint-Esprit. Et ils ont dit, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre de leur dire, « Repentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus pour vos péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit, car la promesse, elle est pour vous et pour tous ceux que le Seigneur va appeler et qui sont en grand nombre. » Et la Bible nous dit que ce jour-là, combien se sont convertis? 3 000. Un message d'évangélisation, bam, un coup de filet, 3 000 âmes se convertissent. Au passage, qu'est-ce qu'on en a fait de ces 3 000 après? Il a bien fallu s'en occuper, n'est-ce pas? Juste méditez là-dessus et vous verrez la suite. Alors à partir de ce moment-là, les disciples de Jésus n'ont fait que de lui demander la hardiesse. Et c'est une grande audace, avec une grande audace, que la parole de Dieu a été prêchée dans le monde entier. Elle est arrivée même jusqu'en Italie. Paul a franchi les frontières et est arrivé presque aux portes de la France, en Italie. Maintenant, en ce moment, si vous ouvrez votre cœur au Saint-Esprit, le Saint-Esprit veut vous communiquer cette hardiesse de la foi. Il est en nous ce matin. Qui peut dire le Saint-Esprit d'abord est au milieu de nous ce matin? Tout à l'heure, Anne disait, les anges sont là, moi, je lève ma main, le Saint-Esprit est là. Alléluia! Vous le croyez ou vous ne le croyez pas? Je n'ai pas vu vos mains. Ah bon, vous m'avez fait peur. Mais est-ce que Jésus habite en nous par son esprit? Si vous êtes d'accord, vous levez aussi la main. Ben, gloire à Dieu! Alors, ben, le travail est fait. Adorons le Seigneur et disons-lui que nous dépendons de lui et une foi surnaturelle va jaillir de notre cœur. Il est temps, mes amis, de croire que notre Jésus est vivant et qu'il va faire des choses dans notre pays qui vont nous dépasser. Notre pays va être arrosé par la bénédiction de Dieu. Autant il y a des vagues de péchés qui se succèdent, autant la vague de la grâce va venir plus forte que toutes ces vagues-là, va les engloutir, et la grâce de Dieu va surabonder là où le péché a abondé. Et je crois que Dieu aime tellement notre pays, mais je voudrais qu'on soit des Bartimée ce matin. Vous savez, cet aveugle qui était à la porte de Jéricho, qui attendait qu'on lui fasse l'aumône, qu'on lui donne des pièces d'argent. Tout à coup, il a entendu un bruit, et Jésus entra dans Jéricho avec ses disciples. Mais il est dit, il sortit avec ses disciples de la ville avec une grande foule. Quand Jésus passe quelque part, il se passe toujours des choses. Il touche des foules. Et quand il est sorti, fenêtre d'opportunité de Bartimée, il a crié parce qu'on lui a dit « Jésus est là ». « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». On a voulu le faire taire, l'esprit religieux était là. Mais il a crié encore plus fort « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et Jésus s'est arrêté. Et je voudrais dire le cri qui arrêta Jésus sur le chemin. Vous savez, il y a des cris que on n'entend pas ce matin, mais qui sont dans vos cœurs. Vous pouvez crier à Jésus ce matin, même si ce n'est pas au travers de votre bouche, mais il y a un cri qui est là. Et le cri qui est dans votre cœur, Dieu l'entend. Mais Dieu veut s'arrêter sur ta situation. Dieu veut s'arrêter dans ton foyer. Dieu veut s'arrêter parce que tu as envie d'aller plus loin avec lui. Il veut s'arrêter sur ton chemin et il veut te poser une question. Que veux-tu que je te fasse ? Il a dit ça à Bartimée, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que vous croyez qu'il ne voyait pas que Bartimée était aveugle ? Et Bartimée lui a dit, mais Seigneur, que je recouvre la vue. Pourquoi Bartimée a-t-il dit cela ? Parce qu'il savait que Jésus avait fait des miracles. Il avait déjà délivré des aveugles. Il avait guéri des malades. Et il s'est dit, c'est mon opportunité, c'est maintenant. Et il a saisi cette opportunité. Et la Bible nous dit qu'instantanément, Bartimée a été guéri, a été délivré. Alors adorons le Seigneur et disons-lui, Seigneur, je veux dépendre de toi ce matin. Et puis la dernière chose pour avoir cette foi audacieuse, ne pensons plus de façon négative. Ne confessons plus le négatif. Si vous dites je suis bête, j'allais dire qu'il te soit fait selon ta foi. Tu dis je suis bête, je n'ai pas de puissance, ok. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de qualification, j'ai raté ma vie, d'autres sont meilleurs que moi, je ne réussirai jamais. Et puis vous pouvez en ajouter des tas et des tas et des tas. Arrêtez tout de suite avec tout cela, mes amis. La pensée négative, la parole négative détruit ta foi. Et ce que vous dites avec votre langue a une grande puissance et peut vous lier. Mais si vous parlez d'échec, de crainte, vous allez être lié par l'échec et par la crainte. Mais commencez à penser dans les termes de la parole de Dieu. Commencez à parler de victoire, mes amis. Commencez à parler de succès en vous basant sur ce que dit la parole de Dieu, en pensant que tout est possible. Est-ce que tu peux dire de ta bouche ce matin derrière ton masque, même si je ne le vois pas, tout est possible. Tout est possible avec Dieu. Allez. Bon, là, vous murmurez, tout est possible. J'aimerais que vous le disiez avec foi. Allez-y.
Tout est possible.
Alors, mes amis, levons-nous et bâtissons. Nous pouvons nous lever et nous pouvons conquérir. Fortifie-toi, mon frère, ma sœur, et bon courage. Si tu es né de Dieu, tu es né non pas pour la défaite, mais tu es né pour la victoire. Accroche-toi au char du vainqueur qui te dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Alors, il y a trois choses. Le diable veut nous accuser. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Parce que quand on est accusé, on peut être condamné aussitôt. Qui les condamnera ? Alors, la réponse, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Et il prie pour nous. Il intercède pour nous. Qui les condamnera ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, le péril, la nudité, etc., l'épée ? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. On va le dire ? Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Alors, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alors que le Seigneur nous fasse aller de victoire en victoire, parce qu'il nous tient par la main. Et ce matin, je voudrais simplement vous dire, le regard de Dieu est sur toi. Le regard de Dieu est sur ton foyer. Rien n'échappe à son regard. mais Dieu est rempli de compassion. Et j'aime quand on dit dans la parole de Dieu, l'Éternel, l'Éternel, rempli de compassion, compatissant, lent à la colère. Heureusement qu'il est lent à la colère avec nous, hein, mais riche en bonté et en fidélité. Il a fait alliance avec nous, nous avons fait alliance avec lui par les eaux du baptême. Mais ce matin, il veut nous dire, je suis avec vous tous les jours et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu nous bénisse ce matin. Mon frère, ma sœur, quand tu vas sortir de ce lieu, ne laisse pas tomber à terre une seule des paroles que tu as entendues, non pas qui viennent d'un homme, mais qui viennent de la parole de Dieu. Ne commence pas à penser négativement. Ne commence pas à dire des choses qui vont attrister le Saint-Esprit de Dieu. Commence à parler de victoire. Commence à parler de conquête. Commence à parler de territoire à conquérir. Et Dieu sera avec toi. Et Dieu va te montrer par des signes que tout ce que tu vas dire et prononcer, tout cela va être agréé de lui. Et tu vas voir dans ta vie des choses qui vont bouger. Cette semaine, des choses vont bouger. Ce mois-ci, des choses vont bouger parce que mon Dieu est vivant. Mon peuple de Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu t'encourage, mais que Dieu te fasse aller plus loin. Au nom de Jésus. Amen.